Et c'est le journal de Sébastien Legenis. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un hypermarché qui fait des vagues. Casino pourrait être convoqué devant la justice pour infraction à la législation sur le travail du dimanche. Précision dans un instant. La prudence des Américains trois jours après les attaques en Arabie Saoudite. Nous entendrons le président Donald Trump qui montre du doigt l'Iran, mais veut éviter tout conflit avec Téhéran. À suivre également l'épiscopat français qui encourage les catholiques à manifester contre la PMA pour toutes. Un nouveau système pour traquer la pollution de l'air aux particules ultra fines. Et de la musique classique en fin de journal avec la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux en concert demain soir à Radio France.
Invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
France Inter.
Le groupe Casino, Sébastien, a-t-il enfreint le droit du travail en ouvrant un hypermarché le dimanche après-midi?
Eh bien oui, si l'on en croit un courrier de l'inspection du travail, révélé hier par nos confrères de Mediapart et que France Inter s'est procuré. Souvenez-vous, Casino avait frappé un grand coup à la fin du mois d'août dans la ville d'Angers, provoquant une grande inquiétude chez les syndicats. Première ouverture d'un géant Casino le dimanche après 13h, juste avec des caisses automatiques. L'hypermarché croyait pouvoir contourner l'interdiction légale en employant seulement des vigiles et ce qu'ils appelaient des animatrices, pas de caissières salariées, nous disait-on. Sauf que depuis, des inspecteurs du travail ont enquêté et ils ont constaté plusieurs infractions. Les précisions de Claire Chaudière.
Ce sont des opérations de contrôle plusieurs dimanches après-midi d'affilée qui ont permis aux inspecteurs de mettre en évidence d'abord une forme de sous-traitance illégale d'activité, un vigile qui aide à scanner un ticket de caisse, une hôtesse employée par un prestataire événementiel qui range des paniers ou appuie sur l'écran d'une caisse automatique toute une série d'infractions, assure-t-on dans l'entourage de l'enquête menée par l'inspection du travail, donnant raison aux opposants locaux à cette ouverture le dimanche après-midi. Antoine Lelarge de la CFDT Maine-et-Loire.
Casino a délibérément choisi de contourner l'esprit de la loi. On se doutait bien qu'il allait falloir que ces animatrices de caisse, qui ne sont pas des caissières de casino, agissent pour accompagner les consommateurs.
Et de toute façon, quel que soit leur fonction, le fait d'employer même indirectement des agents sur ces horaires, sans dérogation, est illégal, estime dans ses courriers l'inspection du travail. Satisfaction de Jean Pastor, délégué central CGT Casino.
Il faut du travail dissimulé. Casino disait circuler, il n'y a rien à voir. Et finalement, Casino bafoue les lois de la République française.
Faux, répond la direction du groupe, qui confirme avoir reçu ces constats, mais s'étonne de l'absence de réaction pour ces 80 magasins déjà ouverts le dimanche après-midi sur le même modèle, et qui préfèrent ne pas relever les menaces d'action en justice imminente.
Claire Chaudière, selon nos informations, le ministère du Travail valide le travail de l'inspection. Leur constat est, dit-on, fondé en droit. Le groupe Casino assure lui qu'il répondra en détail aux observations des inspecteurs dans les jours qui viennent.
Économie encore, Sébastien, avec l'inquiétude des salariés de Michelin.
Le nouveau PDG a lancé une vaste réflexion sur l'avenir de ses sites français. Résultat, 4 ateliers ne seraient pas assez compétitifs, selon nos confrères du journal Le Monde. L'atelier de Clermont-Cataroux, les usines de Cholet en Maine-et-Loire, de la Roche-sur-Yon en Vendée et d'Avallon dans l'Yonne. 2000 emplois sur les 23 000 que compte le groupe en France. Selon la direction, il n'y a toutefois pas de projet de fermeture. On y reviendra dans la revue de presse. Si les industries du 20e siècle s'inquiètent, celles du 21e siècle se frottent les mains. Emmanuel Macron reçoit ce soir à l'Élysée les start-up françaises les plus prometteuses. Objectif, mobiliser une vingtaine d'investisseurs privés et publics à hauteur de plusieurs milliards d'euros pour financer leur développement à l'international. Direction Washington maintenant, avec une administration américaine très confuse. Trois jours après les attaques contre son allié saoudien, faut-il riposter militairement contre l'Iran, pointé du doigt comme étant responsable des attaques de drones contre les installations pétrolières? Faut-il au contraire jouer la diplomatie avec Téhéran? À ce stade, Donald Trump hésite et préfère rester prudent. À Washington, Grégory Phillips.
Dans le bureau ovale, alors qu'il reçoit le prince héritier du Bahreïn, Donald Trump répond ceci aux journalistes qui lui demandent si c'est Téhéran qui se trouve derrière ces attaques. Eh bien, nous avons l'impression que ça vient de là. On a des informations sérieuses qui semblent nous dire cela. On vous tiendra informé. Mais le président américain refuse d'accuser directement Téhéran et se montre beaucoup plus prudent que son secrétaire d'État Pompeo, qui samedi était catégorique, c'est l'Iran. Double discours aussi quand Donald Trump, dimanche soir, évoque dans ses tweets une riposte militaire, mais 24 heures plus tard a des accents moins belliqueux. Est-ce que je veux la guerre? Non, je ne veux la guerre avec personne. On a sans doute l'armée la plus puissante au monde, mais on veut éviter cela. Étonnant Donald Trump, enfin, qui semble ne pas fermer complètement la porte à une rencontre la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec l'Iranien Rouhani. Je sais qu'ils veulent discuter. Leur pays ne va pas bien. Ils aimeraient trouver un accord, mais sous certaines conditions, et nous n'acceptons pas cela. Comme il y a 3 mois, quand il avait renoncé au dernier moment à frapper des installations iraniennes, Donald Trump semble hésiter sur la conduite à tenir. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, les Israéliens qui votent jusqu'à ce soir, l'État hébreu va-t-il reconduire Benjamin Netanyahou comme Premier ministre ou au contraire lui préférer son principal rival, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, à la tête d'une coalition centriste et laïque? Les sondages donnent les deux hommes dans un mouchoir de poche. La Cour suprême britannique doit examiner aujourd'hui la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant 5 semaines. 2 juridictions se sont déjà prononcées sur le sujet. En Écosse, la justice a estimé cette suspension illégale, jugement inverse d'un magistrat londonien. On revient en France avec l'Église catholique qui se mobilise contre la PMA pour toutes. C'est la semaine prochaine que le texte sera examiné par les députés. Hier soir, réunion de la conférence des évêques de France à Paris et son président n'a pas fait de détour. Il appelle les citoyens inquiets à descendre dans la rue. Yann Gallic.
La PMA pourrait être étendue aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires si le texte est adopté, mais les évêques de France restent farouchement opposés à toute procréation médicalement assistée, et ce au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour l'archevêque de Rennes, Pierre Dornelas, ce projet de loi de bioéthique ouvre la voie à la marchandisation du corps.
Quelle notion de l'homme mettrons-nous en valeur si nous organisons l'achat de sperme nécessaire pour rendre la future loi effective ? Faut-il fonder le monde de demain sur le fait que des éléments du corps humain pourraient être objet de commerce?
Le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, appelle les catholiques à faire entendre leur voix le 6 octobre, lors de la journée de mobilisation organisée par la Manif pour tous.
L'Église se montre réservée sur cette technicisation quand même de la vie. Personnellement, je ne vois pas comment nous pourrions empêcher des citoyens, catholiques ou non, des citoyens inquiets de ce projet de loi, de manifester. S'ils pensent que c'est un moyen utile pour se faire entendre et pour faire progresser peut-être le débat, eh bien ils ont le devoir de le faire.
Malgré tout, l'épiscopat ne se fait guère d'illusions sur l'issue des débats à l'Assemblée. Sauf surprise, le projet de loi de bioéthique devrait être adopté d'ici le début de l'année prochaine.
Un début du débat à l'Assemblée mardi prochain. Si l'exécutif s'engage sur le sujet de la PMA, il tient aussi à ne pas laisser l'immigration à la seule extrême droite. C'est tout le sens de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir devant les parlementaires de la majorité. La question est de savoir, dit-il, si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. Fin de citation.
Il est 7h38, on les appelle, Sébastien, les particules ultra fines.
Ultra fines et sans doute ultra mauvaises pour la santé également. Jusqu'ici, la région Île-de-France n'avait des systèmes d'alerte que pour les grosses particules, pourrait-on dire. Mais à la veille de la journée mondiale de la qualité de l'air, la région va lancer aujourd'hui un nouvel appareil de surveillance pour mieux comprendre la pollution de ces nanoparticules. Sandy Dauphin.
On les appelle les PM0,1. Ces particules ultra fines sont 600 fois plus petites qu'un cheveu. Des nanoparticules issues essentiellement des pots d'échappement, de l'usure des freins, des pneus, mais aussi du chauffage au bois, de l'aviation et de l'agriculture. Elles sont si petites que lorsqu'on les respire, elles pénètrent jusque dans le système sanguin. Et pourtant, la réglementation actuelle sur les pics de pollution ne prend pas en compte ces particules ultra fines, regrette le docteur Gilles Dixo, président du comité contre les maladies respiratoires.
La pollution en particules ultra fines, elle n'est pas du tout intégrée dans la réglementation, puisque la réglementation est fondée sur les particules PM10, c'est-à-dire les particules des années 50. J'ai l'habitude de dire que ce sont les particules des locomotives à vapeur et des 403 diesel. La pollution moderne, par exemple, les véhicules émettent des particules qui sont 100 fois plus petites que les PM10 que l'on mesure dans la réglementation. Donc la réglementation actuelle est tout à fait inadaptée. Je dirais que c'est le scandale sanitaire en cours, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on le sait, tout le monde freine des quatre fers pour ne pas avancer sur ce sujet.
Cet automne, pour la première fois, une machine pour surveiller la pollution aux particules ultra-fines va être installée en Île-de-France. Un premier pas, mais d'après les associations, il en faudrait des dizaines, voire des centaines au total.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter.
Et on termine avec une plongée musicale en mer.
C'est ce que propose la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux. Son dernier album vient de sortir et s'intitule Mer au pluriel, M-E-R-S. Elle a choisi trois œuvres du répertoire classique, dont une de Victorin Joncière, compositeur français du 19e, qui n'avait jamais été enregistrée. Stéphane Capron.
La mer a de tout temps inspiré les compositeurs de Handel à Debussy. Marie-Nicole Lemieux a choisi trois œuvres qui sortent des sentiers battus, une de l'anglais Édouard Elgar et le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson. Avec pour la première fois sur un enregistrement discographique, La mer de Victorin Joncière. Dans cette pièce en quatre parties, Marie-Nicole Lemieux devient la voix de la mer.
Ça résume un peu tout l'album qui au début, dans lequel elle est si pétueuse, on parle d'amour, de mort, de relations perdues, d'oubli, de souffrance. Et à la fin, la mer qui vient parler, qui dit « Ben venez ici, vous qui ployez, je vais prendre vos chagrins, je les apaiserai. » Je peux être réconfortante, je peux être dangereuse, parce qu'à un moment donné, je suis la mort. Puis à la fin, ça dit, venez, reposez-vous au sein des ondes, dormez, tous vos maux sont finis. Et pour moi, c'est ce que ça représente, la mer aussi, quand je vais voir du bleu. Pour moi, c'est toujours des moments de contemplation, des moments d'arrêt.
La mer de Joncière, créée en 1881, est tombée dans l'oubli. Elle refait surface grâce à la voix tempétueuse de Marie-Nicole Lemieux.
Marie-Nicole Lemieux, la contralto québécoise, qui sera en concert demain soir à l'auditorium de Radio France avec le National.
Merci Sébastien Logeni.